Alors, ce matin, j'ai intitulé mon message « Le Noël de Joseph ». Le Noël de Joseph. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'examiner le récit de Noël, mais vu au travers des yeux de Joseph. Donc, Joseph, c'est le fiancé de Marie, qui était donc la mère de Jésus. En fait, parce que cette semaine, il y a eu plusieurs événements qui ont fait que j'ai réalisé que la vie est remplie d'aspirations d'un côté et de déceptions de l'autre. Souvent, on a des projets, des grands projets dans la vie, et ces projets, parfois, sont arrêtés par à cause de choses qui ne sont pas liées à nous, et on rentre dans un moment de grande déception, on se dit mais pourquoi ? On ne comprend pas trop. En fait, alors, le premier événement cette semaine, c'était justement ce concert Joy, Joy, Joy. Et c'était vendredi matin. Les bus étaient partis avec les 104 Roumains de la Roumanie. Et donc, ils faisaient leur voyage. Flavius et l'autre appelaient régulièrement pour voir si tout se passait bien. Tout se passait bien. Mais il y avait aussi 17 personnes qui venaient en avion. Budapest-Genève. Et alors, bien sûr, il y avait une grande mobilisation de gens qui priaient que tout se passe bien. Et alors, jeudi soir, on se dit que tout va être bien, et on se réveille donc vendredi matin, tempête de neige à Genève, l'aéroport Cointrin fermé. Alors, j'appelle, bien sûr, pas du tout paniquant, non. J'appelle Flavius, et je lui dis, Flavius, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'osais dire, s'il n'arrive pas à venir? À quoi il me répond, John, sans ces 17 personnes, on annule le concert. Alors, avec mon immense foi, d'accord, je commence à demander au Seigneur, je comprends pas trop quoi. 9 mois de préparation pour une tempête de neige qui pourrait compromettre tout le concert. Et c'est vrai que c'était un moment assez intéressant, c'est là où notre foi est testée, c'est là où on se pose des questions, on se demande, Seigneur, ben voilà, pourquoi, on ne devrait pas poser ces questions, on devrait toujours poser la question, comment? Comment doit-on réagir par rapport à ce genre de déception? Alors, le Seigneur a été très bon, n'est-ce pas? L'aéroport a été rouvert, ils sont arrivés avec quelques heures de retard, le concert a eu lieu et on peut vraiment bénir le Seigneur. Un jour plus tard, Kimberly et James, qui sont à Los Angeles, prennent l'avion pour rentrer à Genève pour Noël. Et ils étaient censés arriver à Genève, tenez-vous bien, 1 heure avant le concert de dimanche. Donc on avait leur place réservée. On était sûr, j'étais sûr qu'ils allaient être là. Et on reçoit le coup de téléphone, vol annulé pour cause de tempête de neige à Genève, impossible d'arriver à l'heure. Alors ils ratent leur vol, le lendemain, alors c'est un périple, ils pourront vous raconter. Pour arriver à Genève 3 jours trop tard, ils ont pris un avion, 12 trains et un ferry. Ils se sont débrouillés et ils ont réussi à arriver. Ils sont arrivés, James est arrivé en short. Et grippé. Tiens, on se demande pourquoi. Mais c'est vrai que c'était assez facile de le voir quand il est arrivé en short. C'était assez marrant. Alors c'était intéressant quand on a réalisé qu'il n'allait pas être là pour le concert. Bon, ça c'était déjà une première déception. Mais c'était au cas où on savait qu'il y avait des milliers de personnes dans le monde entier qui étaient coincées dans les aéroports. Et la question s'est posée, mais est-ce qu'ils vont même pouvoir arriver pour Noël? Alors là, il faut voir la réaction d'une maman. C'était vraiment intéressant de voir mon épouse Meg. Pour elle, c'était clair. Elle avait tout préparé pour elle-même partir en voiture jusqu'à l'aéroport de Heathrow pour passer Noël avec les enfants à l'aéroport. Ça, c'était, pour elle, c'était une évidence qu'elle ne pouvait pas imaginer ne pas passer Noël avec ses propres enfants. Où était le papa dans tout ça? Ça, c'est une autre question, d'accord? Mais j'ai trouvé très intéressant, de nouveau, dans la vie, il y a des aspirations, des désirs, des choses qu'on veut absolument faire, et il y a des déceptions, et on doit les gérer, ces déceptions. Alors, par la grâce de Dieu, ils ont raté le concert, ensuite virgule, par la grâce de Dieu, ils étaient là pour Noël, d'accord? Mais ils ont raté le concert. Mais ils verront la vidéo, n'est-ce pas Serge? Amen, d'accord. Autre déception, On était à Budapest parce qu'on est allé en Roumanie, il y a plusieurs de nous, pour répéter pour le concert. Et on était à l'aéroport de Budapest, on allait prendre notre vol. Et là, on reçoit un message sur nos portables comme quoi Tina Walker, vous connaissez Tina Walker, qui s'était préparée pendant des mois pour chanter la chorale, elle était rayonnante et joyeuse et heureuse. Et là, deux jours avant, elle apprend que son papa est décédé aux États-Unis. Et donc, elle est partie en catastrophe là-bas pour être avec sa famille pour ce moment très difficile du décès du papa. Et donc, du coup, elle a aussi raté le concert. C'est la vie. C'est la vie. La vie est remplie de déceptions. Peut-être vous avez un emploi depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 25 ans, et vous avez votre avenir prévu. Vous dites que ben voilà, les choses vont se passer ainsi, vous faites vos projets, et tout d'un coup, clac! Vous apprenez que votre société est en faillite et qu'elle va fermer, que vous allez être licencié, vous avez quoi, 55 ans ou je ne sais pas trop, et vous réalisez que tous vos projets d'avenir changent. Et de retrouver un emploi va être vraiment très, très difficile. Des projets qui sont cassés en un instant. Tout va bien chez vous et vous apprenez, tout le monde est en bonne santé, et un jour vous apprenez que peut-être un de vos enfants a le cancer. Ou un parent, on connaît des gens, je les ai vus aux États-Unis, des gens, des amis à nous, et il y a peut-être moins d'un, il y a 9 mois en arrière, moi j'étais chez eux, le papa était souffrant, la maman est en pleine forme. 2 mois plus tard, on apprend que la maman a le cancer, elle est décédée il y a environ 1 mois. Mais en 6 mois, la vie de cette famille a complètement basculé, de manière inattendue. Bref. La vie est remplie de projets qui sont parfois changés subitement et souvent par des éléments qui sont hors de notre contrôle. Proverbe 13, 12 dit ceci. Écoutez, c'est très intéressant. Proverbe 13, 12. L'espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Littéralement, ce verset nous dit que l'espoir, les désirs, hein, le projet de vacances qu'on peut avoir, ou toutes ces choses à laquelle on est excité par rapport à l'avenir, cet espoir différé, quelque chose arrive et cet espoir est cassé, rend le cœur malade. Sentiment où, oh, mais pourquoi ? Et tout d'un coup, on a un nœud dans l'estomac et tous nos projets changent. L'espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Ah, d'avoir des désirs et on les voit accomplis, ben on est heureux. Et voilà, ce verset nous rappelle que la vie est faite de projets qu'on anticipe avec joie et que parfois ces projets sont subitement changés et cela nous rend malade. Proverbe 13, 19, un désir accompli est doux à l'âme, est doux à l'âme. Alors, quel est le lien avec Noël ? Eh bien, cette semaine, en pensant à ces déceptions potentielles de ce concert annulé, et nos enfants, etc., eh bien, j'ai commencé à penser à Joseph. Joseph. Joseph, parce que Joseph, comme vous le savez, était le fiancé de Marie. Et c'est un homme dans l'histoire, le récit de Noël, qui a connu une énorme déception. Énorme. Mais Dieu a pris ses déceptions et l'a changé en quelque chose d'absolument glorieux. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, la déception de Joseph et comment Dieu l'a transformé. Peut-être qu'on va pouvoir l'appliquer à nous-mêmes. Lorsque nous avons des déceptions énormes dans notre vie, d'être patient et d'attendre et de dire, ben voilà, le Seigneur a un plan beaucoup plus grand que nous on peut comprendre. Et donc, il faut simplement parfois attendre que le Seigneur accomplisse son plan. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles et ça tombe bien. Merci Rouben d'avoir lu Matthieu 1 parce que c'est le texte qu'on veut regarder aujourd'hui. Nous allons dans Matthieu 1 et nous allons examiner Noël au travers des yeux de Joseph, ce que j'ai appelé le Noël de Joseph. Le Noël de Joseph. Et il y a 4 parties à ce récit. Alors, j'ai pas de PowerPoint aujourd'hui, mais c'est très simple. J'ai 4 parties de ce récit qui va nous aider à comprendre de quelle manière Joseph a vécu son premier Noël. Nous allons aussi voir dans ce récit combien Joseph aimait Marie. et combien il avait un amour énorme pour elle. Et j'espère que tout ça, ça va vraiment nous encourager aujourd'hui. Alors, quelles sont ces quatre parties? Premièrement, tout simplement, un merveilleux projet. Un merveilleux projet. Matthieu 1 et le verset 18. On va lire et ensuite je vais faire des commentaires, d'accord? Regardez. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alors regardez le verset 18. D'accord? Premièrement, le merveilleux projet. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Et il est dit... Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Alors donc, nous apprenons que Joseph et Marie étaient fiancés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre. Alors, il y avait trois grandes étapes dans un mariage juif. Premièrement, c'est ce qu'on appellerait la rencontre des époux. La rencontre des époux. Cette première étape était d'habitude arrangée par les parents. Les parents de ces petits villages, d'habitude, se connaissaient bien, se parlaient entre eux et décidaient que leurs fils et leurs filles feraient de bons couples, ou un bon couple. Vous rappelez l'histoire d'Abraham, qui envoyait son serviteur Eliezer pour trouver une femme pour son fils. Et Rebecca accepte d'épouser Isaac sans jamais l'avoir rencontré au préalable. C'était quasiment un mariage arrangé. Les Juifs pensaient que les jeunes n'avaient pas de sagesse adéquate pour pouvoir prendre une telle décision. Donc, ils pensaient que les parents devaient prendre cette décision pour eux et arranger le mariage. N'oublions pas que Joseph et Marie, à l'époque, n'avaient probablement moins de 20 ans. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui par rapport à ça? Alors, je ne suis pas en train de prôner les mariages arrangés, d'accord? Mais... quand on voit le taux de divorce aujourd'hui et les mariages qui se cassent souvent assez vite la figure, c'est vraiment triste aujourd'hui, peut-être que les parents devraient être consultés. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Et que les parents devraient quand même peut-être donner leur approbation sur les relations vis-à-vis de leurs enfants. C'est peut-être une bonne idée, d'accord? Bref, ça c'était la première étape, la rencontre des époux. Deuxièmement, il y avait... les fiançailles des époux. Cette étape du mariage s'appelait le kiddushim. C'était l'étape officielle. Nous, on appellerait ça aujourd'hui de passer devant la mairie, ou devant le maire. C'est un petit peu cette idée-là. C'est un engagement public. C'était vraiment l'idée de signer les papiers. C'était l'officialisation du mariage. Alors, ils signaient les documents. C'était à ce moment-là, c'est intéressant, qu'on les considérait mari et femme. Cependant, et ça c'est très important, ils ne vivaient pas encore ensemble et n'entretenaient pas de relations sexuelles de mariés. Et ça, on le voit dans Deutéronome 20, je vais vous le lire, verset 7, où il est dit ceci, qui est fiancé à une femme et ne l'a point encore prise. Donc ils sont fiancés sans avoir été officiellement mariés, donc ils ne... n'entretenait pas de relations sexuelles encore, qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Donc tout simplement, il est en train de dire que là, il y a l'exemple d'un fiancé, ils sont fiancés de manière officielle, mais ne se sont pas encore connus tels quels. Donc c'était le contrat officiel entre deux familles et la promesse de deux conjoints au mariage. Cette étape durait un an, et ne pouvait se rompre que par un divorce officiel. Donc c'était vraiment quelque chose de très très engageant. durant cette année. Le mari et la femme étaient reconnus comme étant mariés, mais n'avaient pas les droits de marier. Ils ne vivaient pas ensemble. Ils étaient légalement mariés, mais comme j'ai déjà dit, sans relation physique entre eux. Alors pourquoi ? Quel était le but de cette étape de ce mariage ? Eh bien, la raison du kilushim était tout simplement que chacun prouve sa fidélité envers l'autre. Une grossesse inattendue se verrait et serait catastrophique. Alors nous savons que dans le cas de Joseph et Marie, ils n'entretenaient pas de relation physique, car dans Matthieu 1,18, c'est clair, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Donc le texte est clair. Et aussi, verset 25, « Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Je trouve intéressant, verset 19, « Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Et au verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. » Donc c'est intéressant que le texte les appelle bien mari et femme. Ils sont littéralement mari et femme, mais n'ont pas eu de relation sexuelle. Ce qui était tout le but de cette étape du kilushim. Alors moi, je trouve ça vraiment beau. Beau de voir combien Joseph aimait Marie. Il l'a tellement aimée qu'il a décidé de la respecter sexuellement jusqu'au jour J. Ça, mes amis, ça, c'est l'amour. Moi, je vais vous définir l'amour du monde. Je t'aime, donne-moi ce que je veux. L'amour biblique, c'est je t'aime, que puis-je faire pour t'honorer ? C'est ça la différence. Cet homme aimait sa femme. Et donc la troisième étape de ce mariage était le mariage, maintenant le jour J, le mariage officiel, enfin pas officiel parce qu'ils sont déjà officiels, mais disons c'est la célébration quelque part, ça s'appelle le houpa, le mariage propre, une fête qui durait 7 jours où les amis mangeaient, buvaient, célébraient le mariage de ce couple. Et là, vous rappelez que dans Jean 2, le premier miracle que Jésus a fait était dans le contexte de mariage. Ben, ce mariage, c'était la houpa, et là, on sait très bien, il a fait son premier miracle, ce que j'appelle le miracle français, parce qu'il a créé un super bon vin, vous vous rappelez ? Et là, il ne comprenait pas, enfin bref, vous pouvez lire l'histoire, c'est vraiment excellent, c'est dans Jean 2, d'accord ? Et donc, c'est pendant cette fête où le père de l'épouse donnait un mohar, un paiement ou une dot, 2 douzaines de moutons peut-être, ou peut-être pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent, peut-être juste une poule. Bref, dépendant de la richesse de la famille, on donnait une sorte de dot. Donc le texte veut que nous comprenions une chose, c'est très important, c'est tout le but de ce texte, il veut comprendre que Marie est devenue enceinte pendant cette période de fiançailles, pendant que Joseph et Marie étaient encore vierges. C'est très important. C'est la clé du texte, là. Donc voilà les merveilleux projets de ce couple. Ils se rencontrent, ils sont ensemble, ils sont officiellement mariés, ils se réservent sexuellement jusqu'au jour J. Tout le monde les connaît. La fête est probablement en préparation, ou ils y avaient déjà pensé. Tout était parfait. Jusqu'à là. Deuxième point. Oui, un merveilleux projet, mais deuxièmement, une terrible déception. Quelque chose d'incroyable se passe ici. Au verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Non mais t'allais voir, mes amis, écoutez, dans ce verset, c'est un choc, un bouleversement total dans une vie, un scandale, de l'incompréhension, un bouleversement, une confusion, voire colère, voire un sentiment de trahison. Mais écoutez, mettez-vous à la place de cet homme. Vous êtes follement amoureux. Vous avez déjà vu des amoureux? Mais alors, il y a les yeux, ils scintillent les yeux, vous savez. C'est beau de voir des gens amoureux, mais c'est tellement mignon, quoi. On le voit, ils sont amoureux, quoi. C'était Joseph, il était amoureux, il aimait cette femme, elle aimait cet homme. Ils avaient fait des bons projets ensemble. Vous attendez votre jour de mariage officiel. Et là, un jour, comme une bombe, vous apprenez et découvrez que votre fiancée est enceinte. Et pas de vous, parce que vous êtes un homme de bien, un homme fidèle, et vous êtes réservé jusqu'au jour J. Et là, c'est la bombe. Elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Mais comment tu réagis? Allez avec moi à Luc 1, regardons comment ça s'est passé. C'est vraiment incroyable. On est dans Luc 1 maintenant, verset 26. Alors, on recule un petit peu, d'accord? Regardez ce qu'il est dit. Très intéressant. Au sixième mois, donc cette année, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. Alors, attendez voir. Le texte est hyper clair ici, d'accord? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Eh bien, il est en train de dire qu'elle était numéro un vierge, mais qu'elle était fiancée à Joseph, clair et net. Et alors, elle est là, un jour, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un ange qui s'appelle Gabriel. C'est intéressant. Dans la Bible, il y a deux anges qui portent des noms, Gabriel et Michaël. Dans Jude 9. Donc il y a un ange. Vous dites, ouais, mais je ne crois pas aux anges. Ben, tu ferais mieux d'y croire. Parce que la Bible est vraiment claire que des anges, il y en a beaucoup, ils sont très réels. Donc au sixième mois, l'ange Gabriel. Et en plus, il a un nom. Donc les anges ont des noms. Il fut envoyé par Dieu. Donc les anges, ce sont les émissaires de Dieu, les ouvriers de Dieu, pour accomplir sa volonté, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Alors qu'est-ce que... Alors, vous êtes Marie, d'accord? Vous êtes fiancée, tout d'un coup, tac, il y a un ange qui apparaît. Alors, qu'est-ce qu'elle apprend de cet ange? C'est incroyable. Verset 28. L'ange entra chez elle, donc il rentre à l'intérieur de la maison, et dit, je te salue. Toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Donc, c'est un ange. Elle apprend que l'ange est envoyé de Dieu. L'ange a un nom. L'ange parle. L'ange entre dans la maison. L'ange lui dit qu'elle a été choisie par Dieu. Pourquoi? La grâce de Dieu. Dieu a décidé de la choisir elle. Et lui dit que le Seigneur est avec elle. Alors, verset 29, on comprend. Plutôt troublé par ses paroles. Je ne sais pas si un ange apparaissait et vous disait ça, comment vous réagiriez? Je pense que vous seriez troublé aussi, moi aussi. Et Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Alors l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et voici ce que l'ange dit à cette femme, vierge. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Donc, tu vas devenir enceinte. Tu vas enfoncer un fils, pas une fille, un fils. Au fait, tu vas lui donner le nom que je vais te donner maintenant, Jésus. Il sera grand, appelé fils du Très-Haut. Alors, attendez, là, ça devient vraiment intéressant. Au fait, il sera fils de Dieu. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alors, c'est intéressant. Il est en train de dire qu'il est dans la lignée du roi David et donc qu'il est dans la lignée des rois, qu'il va devenir le roi. Vous vous rappelez, lorsqu'on a crucifié Jésus, on a cloué au-dessus de la croix, roi des Juifs. Bien sûr qu'il était roi. Il était dans la lignée officielle de David. Il avait le droit au trône. Il était réellement roi. Dans la lignée du roi David. Et regardez ce qu'il dit encore au verset 33. « Et l'ange dit à Marie, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Alors, ça va, il va être roi, il va être légitimement roi d'Israël par le biais de la lignée de David, mais ce sera un roi éternel. Il vient de lui dire, il sera fils de Dieu avec un règne éternel. C'est pas n'importe qui, là, qui va naître de toi. Et ça continue. Marie dit à l'ange, mais comment cela est-ce possible, puisque je ne connais point d'homme? Alors, ça, elle réagit normalement. Elle dit, écoute, je n'ai jamais entretenu de relations sexuelles avec un homme. Comment est-ce possible? C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible, ange. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut, donc de Dieu, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Non mais attendez voir. Qu'est-ce que l'ange vient de lui dire? Écoute, Marie. Premièrement, cet enfant ne sera pas conçu par un homme, mais par le Saint-Esprit. Ah bon? Et la puissance du Très-Haut, de Dieu, te couvrira de son ombre. Dieu va effectuer un miracle. C'est pourquoi le Saint-Enfant, donc cet enfant qui va naître est différent de tous les autres, il est quoi? Saint. Ce Saint-Enfant, c'est un enfant qui va naître sans péché. Sans péché, c'est ce qu'il dit. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi, sera appelé fils de Dieu, de la même nature que Dieu, qui veut dire que l'enfant qui allait naître de Marie serait Dieu incarné, sans péché, fils de Dieu, de la même nature que Dieu, conçu par une femme, Marie, et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit un fils saint, sans péché. C'est ce qu'il est en train de dire. Cela veut dire que l'enfant qui allait naître de Marie serait 100% homme de Marie, mais 100% Dieu du Saint-Esprit. Verset 36, voici Élisabeth apparente a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, mettez-vous à la place de Marie et vous recevez cette nouvelle. Comment vous réagissez? Wow! Ça, c'est pas habituel comme annonce. D'accord? L'ange dit bien, écoute, je sais que ça paraît complètement farfelu. Ça sort de ta boîte de la possibilité et de la réalité. Mais, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Alors, regardez la réaction géniale de cette femme. Elle dit, écoute, moi je ne sais pas. Apparemment, c'est vrai. Verset 37, verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon cette parole. » Et l'ange la quitta. Elle conclut, « Bon, écoute, apparemment c'est vraiment un ange qui me parle. Je ne suis pas en train de déconnecter. Je pense que c'est vraiment du réel, c'est du concret. Ça doit être vrai. Bon, écoute, moi je vais faire confiance au Seigneur. Si c'est vraiment de Dieu, ok. Ok. » Et vous pouvez lire les versets 46 à 55. C'est le cantique de Marie. Là, elle bénit le Seigneur. Très intéressant quand même un petit truc. Verset 46, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Certains veulent croire que Marie était sans péché. Faux. La Bible dit que Marie appelle Dieu son sauveur. Qui a besoin d'être sauvé ? Ben, les pécheurs. Donc là, elle affirme clairement qu'elle est pécheresse. Ça, c'est sûr et certain. Je ferme la parenthèse. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, revenons à Joseph. Retournons à Matthieu 1. Joseph n'a aucune idée de ce qui vient de se passer à Marie. Il n'est pas là, lui. Il n'est pas là, il ne sait pas. En fait, ce que nous venons de lire, on le retrouve, Matthieu 1, entre le verset 18 et 19. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Maintenant, vous êtes Joseph. D'accord ? Vous êtes Joseph. Sans le savoir, Gabriel vient d'apparaître à votre fiancée Marie et lui annonce toutes ces choses. Après coup, Marie vient vous voir. Elle vous dit ceci. Joseph, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Il y a un ange qui m'est apparu. Il s'appelle Gabriel. Et puis il est rentré dans ma maison. Il m'a apparu et puis, écoute, il m'a annoncé que je vais bientôt tomber enceinte. Mais pas par un homme. En fait, c'est le Saint-Esprit qui va faire que je tombe enceinte. Et puis, l'enfant, il m'a dit que je devais nommer l'enfant Jésus. Jésus. Et puis, qui va être le Fils de Dieu. Comment vous réagissez ? Vous êtes Joseph. En fait, on ne sait pas exactement comment Joseph a appris cette nouvelle. Mais c'est probablement Marie qui lui a dit. Écoutez, franchement, le monde de Joseph, il se dit, ou c'est vrai, donc elle est déjà enceinte, là elle me cache un truc, ou bien elle déconnecte complètement, quoi. Là je ne la reconnais plus. Qu'est-ce que je fais, quoi ? Le pauvre Joseph, comme il est face à un truc, c'est énorme. Comment vous réagissez à ça ? C'est fou, c'est la folie, là. C'est un homme effondré. Son monde s'écroule. Lui qui avait été tellement dévoué à cette femme, il attendait ce beau jour de leur mariage et en un instant, tout s'écroule autour de lui. Alors, légalement, il avait deux possibilités, Joseph, maintenant. Selon Deutéronome 22, il avait le droit de la faire lapider. Pour cet adultère, en fait, dans Deutéronome 22, 13, si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, il lui impute des choses criminelles, il porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Donc voilà, donc un homme et une femme se marient, ils ont ces fiançailles officielles, et réalisent ou apprend ou découvrent qu'elle n'était pas vierge, en fait. Si ça, c'était le cas, verset 20, « Si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël et se prostituant dans la maison de son père. » Alors n'oublions pas, hein, verset 22, « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme et la femme étaient coupables. Celui qui péchait, dans ce sens-là, dans l'Ancien Testament, était redevable de la peine de mort. » Vous dites, oulala, ça c'est sérieux. Ouais, c'était super sérieux. Les choses ont changé aujourd'hui. Donc sa première, comment dire, la première option légale qu'il avait, c'était de la faire lapider. Mais regardez verset 19 dans Matthieu 1. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Il aimait sa femme. Il ne voulait pas la diffamer. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Il y avait une deuxième option, et là vous pouvez lire, c'est un peu long, c'est dans Deutéronome 24, on ne va pas lire, mais dans Deutéronome 24, il avait le droit aussi d'enclencher un processus de divorce privé, prenant 3 témoins, et écrire carrément un contrat de divorce. Dans ce cas-là, la séparation n'était pas publique, mais privée. Il n'y avait même pas besoin d'écrire la cause du divorce pour protéger la personne. Cela restait un secret, bien que les rumeurs, on pourrait imaginer, exploseraient de tous les côtés. Mais c'était un droit qu'il avait. Jésus en parle dans Matthieu 19, et il dit que le divorce a été prescrit par Moïse pour une concession. Parce que les hommes sont tellement corrompus, que sinon il n'y aurait plus personne. Quoi. Il y a tellement d'adultères. C'est une concession vis-à-vis du péché de l'homme, dire voilà, moi je vous autorise de divorcer au lieu d'être lapidé. Intéressant. Donc nous apprenons au verset 19 que Joseph opte pour l'option du divorce. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas la diffamer. Alors il décide de la divorcer secrètement. C'est une super belle attitude. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais c'est une belle attitude. Alors voilà, il décide de la divorcer. C'est intéressant, non ? Alors ce que vous savez, c'est que ce récit ne termine pas avec le divorce de Joseph et Marie. Bien qu'il avait l'intention légale de la divorcer. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ah, troisième point, une bienheureuse nouvelle. Au moment où il pense d'enclencher le procédé de divorce, regardez ce qui se passe, Matthieu 1, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. C'est intéressant. Je ne devrais pas poser ces questions, mais je la pose. Pourquoi est-ce que Dieu a attendu de lui révéler cette vérité ? Je ne sais pas. Et ce n'est pas la bonne question à poser. Vous savez, quand nous, on a une colle ou une grosse tragédie ou une épreuve dans la vie, notre première réaction, c'est de vouloir dire « Mais pourquoi ?» Pas la bonne question. Il faut poser la question « Comment ?» Comment dois-je réagir ? Pourquoi Dieu peut nous révéler le pourquoi ou peut ne pas nous révéler le pourquoi ? Mais je dois toujours réagir selon les prescriptions de la parole de Dieu. Alors, Joseph réagit juste. Il a le droit de la divorcer, il enclenche le procédé, mais il l'aime, il a de la compassion, il ne veut pas la casser, cette femme. Et alors, à ce moment-là, il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Donc on sait qu'il dormait, parce qu'il dit au verset 24, Joseph s'étant réveillé. Donc Joseph s'endort un jour, là il est épuisé, on peut imaginer, émotionnellement il est complètement lessivé. Vous êtes dans une déprime totale. Vous posez la question, en plus dans un village comme ça, tout le monde va vite le savoir. Tu te dis, mais c'est incroyable, qu'est-ce que je fais ? T'es cassé, quoi. T'es cassé, t'es lessivé, t'es émotionnellement, t'es drainé. Et il se dit, mais t'en vas en plus, ma femme, est-ce qu'elle me ment ? Elle a complètement déconnecté, mais je fais quoi avec cette information ? Tu le plains, complètement tu le plains. Alors vous examinez vos options. Alors lui, dans l'épuisement, il s'endort. Et là, pendant que vous dormez, un truc complètement incroyable se passe, un ange vous apparaît et vous parle. Pendant que vous dormez. Et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est l'ange qui lui dit tout ça. Alors l'ange lui dit quoi exactement ? Alors déjà, il sait que c'est un ange. Il sait que c'est un ange. L'ange lui apparaît dans ce songe. Il apprend que sa femme ne lui a pas été infidèle. C'est ce que l'ange lui dit. Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle n'a pas été infidèle envers toi, Joseph. C'est le Saint-Esprit qui a permis ce miracle. » Et regardez, cet ange lui dit, verset 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Donc l'ange dit à Marie, Jésus, et à Joseph, Jésus. « Vous lui donnez le nom de Jésus. » Mais pourquoi ? Yeshua veut dire « éternel et salut » ou littéralement « sauveur ». Et regardez ce qu'il dit juste après. « Vous lui donnerez le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Comme Rouben l'a dit tout à l'heure, voilà le cœur et le centre et le but de ce passage, de l'événement. Ce bébé, dont le nom devait être Jésus, sauveur, viendrait pour une raison spécifique, celle de sauver son peuple de ses péchés. Ça, c'est le but. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça implique, premièrement, que le peuple est pécheur et que le peuple a besoin d'être sauvé. Mes amis, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire. Vous et moi, nous sommes pécheurs. Nous avons hérité notre péché de Adam et Ève. Nous sommes nés dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritons à cause de notre péché la mort physique, ça on l'a de toute façon, mais la mort spirituelle. Nous serons coupés de toute l'éternité d'un Dieu saint parce que nous ne sommes pas saints. Et Habacuc 2 dit que seul Dieu peut regarder que tes yeux sont trop purs pour voir le mal. C'est-à-dire que Dieu ne peut permettre dans sa présence que la sainteté parfaite. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres, toutes les actions religieuses que tu veux dans ta vie, tu ne pourras jamais enlever ton péché, c'est impossible. Tu peux essayer, c'est impossible. Non, pour ôter ton péché, il te faut un sauveur. Quelqu'un qui vienne et qui te lave de tes péchés. Qu'est-ce qu'on apprend encore ? Il apprend de cet ange. Verset 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. » Il lui dit, « Écoute, au fait, ce que tu es en train d'expérimenter, Joseph, c'est l'accomplissement d'une prophétie. » Il apprend que la naissance de son fils est l'accomplissement d'une prophétie biblique. Et il la donne. Voici la prophétie, verset 23, par le prophète Ésaïe. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie avec Dieu avec nous. » Et là, c'est une prophétie tirée de Ésaïe 7 et le verset 14. Alors, tenez-vous bien, cette prophétie a été écrite 800 ans avant la venue de Jésus. 800 ans ! Qui dit ceci ? Je le lis hein, dans Ésaïe. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » Un signe, ça veut dire miracle. C'est un miracle. Voici, une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc, le prophète, 800 ans avant, avait dit, « Une vierge, un jour, aurait un fils, Dieu avec nous. » 800 ans plus tard, Joseph se réveille et dit, « Waouh, mon enfant est ce fils. » C'est incroyable. Et ensuite, il commence certainement à consulter toutes les autres prophéties et il réalise que cet enfant serait né à Bethléem, qu'il irait ensuite en Égypte, qu'il grandirait à Nazareth, c'est toutes des prophéties. Qu'il serait plus tard trahi pour 30 pièces d'argent, qu'il serait crucifié, qu'il serait enterré dans une tombe empruntée et qu'il ressusciterait des morts. Tout ça, vous le trouvez dans les prophéties. Elles sont tellement spécifiques, ces prophéties, que c'est impossible que ce soit que coïncidence. Au fait, comment est-ce que vous décidez de prévoir votre lieu de naissance et du fait que vous allez être né d'une vierge ? Là, il faut le faire. Non, c'est ridicule. Il n'y a qu'une personne dans l'histoire du monde qui pouvait accomplir ces prophéties. C'est Jésus-Christ, Dieu avec nous, personne d'autre. Celui qui est né sans péché. Mais vous dites, mais John, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que Jésus devait naître d'une vierge ? C'est pas compliqué, ça ? Alors, c'est compliqué de réaliser, mais pas pour Dieu, pour nous, d'accord ? C'est très compliqué. Mais écoutez, c'est la logique absolue. Écoutez bien, pourquoi devait-il être né d'une vierge ? Alors, je vous pose cette question. D'où héritons-nous notre péché ? Mauvaise nouvelle. De nos parents. Si vous êtes parents, mauvaise nouvelle. Vous avez transmis à vos enfants leur péché. On est né dans le péché. C'est ce que nous dit la Bible. Luc 1,35 nous dit que Dieu, le Saint-Esprit, pas Dieu, a couvert Marie de son ombre. Ce qui s'est passé, c'est que le péché de Marie ne s'est pas transmis à Jésus car il fut bloqué par le Saint-Esprit. Jésus est donc 100% homme dans son humanité, mais 100% Dieu puisqu'il n'a aucun péché. Mais vous dites, mais pourquoi? Est-ce que c'était important? Écoutez, très très bien. Si moi je suis condamné à mort pour mon péché, est-ce qu'un autre pécheur peut prendre ma place et mourir à ma place? Ben non, pourquoi pas? Parce que lui doit mourir pour son péché. La seule personne qui peut mourir à ma place et enlever la peine de mon péché, c'est un homme innocent. Et il faut le trouver, l'homme innocent. Il n'y en a qu'un. C'est qui? Celui qui est né sans péché. Celui qui est né d'une vierge. Et il n'y en a qu'un. Jésus-Christ. C'est le seul qui peut ôter notre péché. Mourir à notre place, parce que lui ne mérite pas le salaire du péché qui est la mort. Maintenant, vous comprenez pourquoi il était capital que Jésus soit né d'une vierge. Et maintenant, vous comprenez quelque chose d'autre. Il y a des textes, vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, mais les chrétiens, vous êtes tellement étroits. Vous ne pouvez pas être un petit peu plus large, tolérant. Ah, c'est compliqué parce que Jésus a dit ceci. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est pas très large, ça. Ça, c'est hyper étroit. Il dit « Il n'y a qu'une manière d'accéder au Père qui est saint, c'est par moi, Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que moi, je suis mort à ta place. » Personne d'autre, dans l'histoire du monde, peut faire ça. Vous dites « Wow, mais c'est hyper étroit !» Écoutez, Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Qu'est-ce que ça veut dire aucun autre? Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Mes amis, le christianisme est hyper étroit. Jésus a dit la porte est large qui mène à la perdition et étroite celle qui mène à la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre sauf Jésus-Christ, né d'une vierge sans péché qui a pris la peine de notre péché. Et ce que je trouve absolument merveilleux dans cette histoire, c'est que Joseph et Marie ont capté. Ils ont capté. Alors, l'homme effondré, maintenant Dieu lui révèle ces choses. Et on arrive à la dernière partie, le dernier point. Il y avait un merveilleux projet, une terrible déception, une bienheureuse nouvelle et quatrièmement, une émouvante obéissance. Absolument merveilleux. On retourne à Matthieu 1 et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Il décide de ne pas la divorcer. Il décide de ne pas la lapider. Non, il croit cette révélation et dit « D'accord, ben je te prends. On reste mariés. » Mais regardez le verset 25. Le texte veut qu'on comprenne, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. C'est clair. Cet enfant est né du Saint-Esprit. Il ne l'a point connu jusqu'à qu'elle ait enfanté Jésus. Et ceci implique, contraire à ce que certains disent, qu'après la naissance de Jésus, Joseph et Marie ont eu des relations sexuelles normales comme tout couple marié. Mais cela ne s'est fait qu'après la naissance de Jésus. Et nous connaissons le reste de l'histoire. Jésus est né à Bethléem. Hérode est menacé par la nouvelle d'un nouveau roi. Les rois mages viennent adorer le bébé. Joseph est averti par un autre songe et il part en Égypte et accomplit ainsi une autre prophétie. L'ange réapparaît à Joseph pour lui dire de rentrer lorsque la menace est terminée. Donc il rentre, il s'installe à Nazareth. Et ensuite, on n'entend plus parler de Joseph, de nom. Il disparaît de la scène. Et ça, mes amis, c'était le Noël de Joseph. Incroyable, non? Incroyable. Moi, je pense que cette obéissance, à la fin, où il a cru, il a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire, il y avait un coût. Ça lui a coûté quelque chose. Premièrement, la honte et l'embarras. Écoutez, franchement, une fois que l'ange lui a parlé à lui, parlé à Marie, eux, ils sont convaincus. Mais est-ce que les autres à Nazareth sont convaincus? Non, mais c'était la honte. Imaginez la honte de vivre pendant ces mois dans ce village où tout le monde pensait que, ou bien ils avaient couché ensemble, ou bien qu'elle avait connu un autre homme. Et eux, ils devaient affirmer, non, 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 c'est Saint-Esprit, c'est le Fils de Dieu. Joseph et Marie, là, vous avez vraiment des gros problèmes. Hein, là, peut-être qu'on doit aller voir un psy, là, là vraiment. Mais la honte, vous vous rendez compte? Et eux devaient porter cette vérité dans leur cœur, coûte que coûte. Même si tout le monde et personne ne les croyait, eux savaient que c'était vrai. Mes amis, le christianisme est comme ça. Parfois, nous sommes les seuls à croire que la parole de Dieu est vérité, que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. On peut nous ridiculiser, on peut nous prendre pour des illuminés, des religieux, farfelus. Écoutez, les gens diront ce qu'ils veulent. Moi, je suis convaincu. Christ a bouleversé, il a transformé ma vie et toi, ce qu'il a transformé la tienne. Pourquoi compromettre ce que nous savons être vrai? N'ayez pas peur de ce que les gens disent. N'ayez pas peur. Persévérez. Continuez. Annonçons la bonne nouvelle. Et voyons les vies, ceux qui reçoivent Christ comme sauveur. Écoutez, on les voit changer devant nous. Dieu les transforme. Pardonne leurs péchés, leur donne la vie éternelle. Écoutez, Noël, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est le salut qui est venu. Proclamons-le librement. N'ayons pas peur des gens. Soyons, bien sûr, ayons du tact, de la gentillesse, qu'on sourire, d'accord? Ne nous battons pas avec les gens. Annonçons et n'ayons pas peur de la honte et de l'embarras. Deuxièmement, les calomnies. Imaginez ce que certains disaient à leurs propos. Je pense aussi au stress physique. Ils devaient prendre un voyage de 120 km de Nazareth à Bethléem, juste pour le recensement, à pied ou en âne. Puis ensuite, après la naissance de Jésus, ils devaient redescendre en Égypte et revenir. Mais attendez voir, un stress physique, un stress émotionnel, c'est inimaginable. Puis en plus, le stress de mettre un enfant au monde dans une étable, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Écoutez, là, j'ai pensé à un truc cette semaine, c'est incroyable. Vous savez qui a certainement coupé le cordon ombilical de Jésus ? Joseph ! Moi, j'ai jamais coupé un cordon ombilical. Moi, j'aurais eu la trouille, je sais pas. C'est intéressant de penser à ça. Ils étaient là, dans leur étable, avec les animaux, et lui a dû mettre au monde cet enfant. Mais c'est stressant, ça. Enfin, moi, ça aurait été hyper stressant. Ah là là. Mais après cette naissance, quelle joie! Regardez, vous savez, les rois mages, ils viennent, et là, dans Matthieu 2, regardez. Verset 11, ils entrèrent dans la maison, les rois mages, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Moi, je me rappelle, quand j'ai étudié ce texte, il y a des années en arrière, j'ai pleuré sur ces versets, pensant à ces mages qui sont venus de l'Orient, parce qu'ils avaient vu cette étoile, ils avaient les prophéties de Daniel, et ils arrivent, ils voient cet enfant, ils savent que c'est le sauveur du monde qui vient d'être né, et là, ils se prosternent devant lui et l'adorent. Cet enfant est adorable. Alors, hein, c'est pas dans le sens que nous on l'utilise. Adorable dans le sens que Jésus-Christ était Dieu incarné et lui méritait l'adoration. Jésus est nul autre que Dieu et ils se prosternent et l'adorent. Et ensuite, ils ouvrent d'un cœur, ils ouvrent leur trésor et lui offrent des présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous savez, un chrétien qui a été transformé par la vie de Jésus-Christ, qui a reçu son pardon, il veut maintenant donner en retour au Seigneur. Seigneur, prends tout, ma vie, mon argent, tout ce que j'ai, ça t'appartient. Seigneur, tu étais tellement bon envers nous. Et eux, ils avaient de l'or, de l'encens, de l'humire. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Puis, vous rappelez les bergers? Eux aussi, des anges leur disent, mais écoute, il y a un bébé qui est né, ils y vont. Et puis Marie et Joseph, ils sont dans la table, tout d'un coup, il y a tous ces bergers. Ouais, est-ce que le Sauveur est là? Ben oui, il est là. Non, mais t'allais voir, ils ont vécu des choses incroyables. Incroyables. Et ça, mes amis, c'est le Noël de Joseph. Est-ce que vous avez vécu des déceptions, des tragédies, des choses dans votre vie où vous vous êtes écroulé, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je pense qu'on a tous vécu des choses comme ça, n'est-ce pas? Alors, dans leur cas, c'est vrai que Dieu a révélé par le biais d'anges clairement les choses. Dans notre cas, ce n'est pas toujours le cas. Dieu ne nous explique pas toujours pourquoi on vit ce qu'on vit. Donc, il n'y a qu'une solution. Faire confiance au Seigneur. Il a toujours le dernier mot. Il nous aime, il est bon envers nous. Il nous a offert son Fils. Il nous a offert le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle. Est-ce qu'il nous aime? Est-ce qu'il connaît notre besoin? Inclinons-nous dans la prière. Je ne sais pas du tout où vous en êtes avec le Seigneur, mais peut-être quelque chose dans ce récit vous a touché ce matin. Peut-être dans ce que Joseph a vécu, ou peut-être ce que Marie a vécu. Peut-être c'est quelque chose par rapport aux anges ou à la prophétie. Ce matin, j'aimerais simplement évoquer ce que la parole dit, c'est que Dieu vous aime. Que Dieu connaît votre situation parfaitement, même si vous ne la comprenez pas. Tout ce récit pointe à une personne, Jésus-Christ. Voilà la clé. En Christ, nous pouvons avoir une paix parfaite. C'est Noël. Quel meilleur moment de venir à Christ et de faire comme les rois mages et de l'adorer. De lui dire, Jésus, deviens mon sauveur, deviens mon Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ.